des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario.
Bonjour.
La LHJMQ, Ligue de hockey junior majeure du Québec, fait encore parler d'elle. Cette fois-ci, c'est pas pour des initiations.
C'est un ancien gardien de but en plus qui a mis le doigt sur leur bobo, là.
Ouais, parce que là, c'est pas un scandale sexuel cette fois-ci. C'est pas les commotions cérébrales, c'est pas les bagarres, Mario. Mais c'est le français qui s'immisce là, dans la LHJMQ, du moins l'absence de français qui fait jaser pas mal. Alors qu'hier soir, c'est le chef du Parti québécois, Paul-Saint-Pierre Plamondon.
Ancien gardien de but de l'Université d'Oxford.
Exactement, quand même, hein, c'est prestigieux jouer au hockey.
Il joue en anglais quand même. D'après moi, en Angleterre, il joue en anglais à l'œil.
Oui. Ben, peut-être qu'il criait des bons jurons québécois quand il était dans un but.
Ça, c'est ça qui doit être le fun. Hein? Tu peux sacrer tant que tu veux, ça insulte personne.
Je suis pas sûr qu'il y a grande personne sur des patinoires de hockey, Mario, qui sortiennent de sacrer en ce moment au Québec, je te dirais. Mais revenons-en à nos moutons. Et la JMQ, donc, qui se font pincer, si on veut, là, les culottes à terre.
Mais j'ai été étonné de ce que Paul-Saint-Pierre Plamondon a partagé sur les réseaux sociaux. Sincèrement, moi, ça m'a étonné et un peu déçu.
C'est une image des voltigeurs de Drummondville, la photo en question.
The Voltigeurs.
Exactement, de Drummondville, qui ont des chandails avec un texte qui est uniquement en anglais pour les séries éliminatoires. Gilles Courteau Trophy Playoff. Donc, les séries éliminatoires du trophée Gilles Courteau. C'est ce qu'il aurait pu écrire sur le chandail, Mario. Je viens de faire le travail pour eux, mais bon, c'est pas ce qu'il y a là-bas, des chandails uniquement en anglais.
C'est vrai que c'est devenu une ligue, le Québec et Atlantique. Il y a plusieurs équipes de l'Atlantique maintenant. Ça demeure la ligue pas mal québécoise.
Je veux dire, c'est LHJMQ à la fin.
Oui, exactement. C'est Maritime Québec. Puis de ne pas avoir de français du tout, compte tenu de l'historique de la Ligue, qu'on ait accommodé avec deux, trois mots d'anglais, j'aurais peut-être pas fait une scène, mais plus de français du tout, j'avoue ne pas en revenir.
Surtout que c'est pas une exception, Mario, parce que les Saguenay, Chicoutimi aussi ont une image avec un chandail à peu près similaire, là, uniquement écrit en anglais.
Et j'ai vu un responsable des communications de la LHJMQ qui disait, ni plus ni moins, qu'ils avaient, eux, comme une espèce de devoir là, de préparer les jeunes à un environnement, étant la Ligue nationale de hockey, les préparer à un environnement où ça se passe en anglais, tout se vit en anglais, fait que tout se bien de parler anglais. La grande majorité ne joueront jamais dans la Ligue nationale de hockey, puis je pense que le jour où ça va arriver, ils vont être assez motivés qu'ils vont apprendre leur anglais. Je pense pas que le fait d'avoir eu un chandail en français durant leur carrière junior va leur faire un si gros obstacle.
Ouais, ben j'irai renchérir là-dessus, Mario, là. Je m'excuse. C'est comme si tu avais besoin là, d'un stage en anglais dans ton équipe de hockey pour être confronté au milieu anglophone. Parce que sinon, au Québec, là, à aucune place, nulle part, tu peux être confronté à l'anglais. Là, je m'excuse.
J'ai trouvé ça inquiétant et décevant. Et là, il y a comme tout un mouvement, tout un questionnement sur une espèce de glissement là, qui se passe dans la Ligue de hockey maritime Québec.
Et là, ben, du côté des politiciens, on a réagi rapidement. Là, oui, Paul-Saint-Pierre Plamondon a ramené la nouvelle, mais ça n'a pas tardé à bouger du côté du gouvernement. Jean-François Roberge, le ministre qui est responsable de la langue française, qui a dit qu'on va devoir se pencher là, sur les manières de faire de la Ligue et jusqu'à aller à parler d'une enquête de l'Office de la langue française. On peut écouter un peu le ministre Roberge, Mario.
Je pense que c'est pas acceptable que la Ligue de hockey junior du Québec, que cette Ligue-là ne respecte pas le caractère francophone du Québec. Vous savez, le Québec est la seule nation francophone d'Amérique. On a adopté une loi qui précise que le français est la seule langue officielle, la seule langue commune au Québec.
Bon, oui. Et j'ajouterais à son propos, les acheteurs de billets dans les deux villes qu'on vient de nommer, Saguenay et Drummondville, à mon avis, sont assez majoritairement francophones.
Voilà.
Les gens qui viennent encourager l'équipe au quotidien dans les estrades et lui permettre de vivre, là, c'est des francophones.
Oui, puis les voltigeurs de Drummondville ont émis eux-mêmes un communiqué en rappelant qu'ils sont une organisation francophone, qu'ils veulent du français,
ils sont posés avec un chandail en anglais.
Oui, on comprend que c'est là que ça pourrait venir.
On comprend aussi qu'il n'y a aucun jeune. Peut-être que c'est pas possible. Peut-être qu'il n'y avait pas un jeune dans l'équipe qui a dit « moi, je le porte pas ». Ou qu'ils sont contents de faire les séries. Probablement qu'eux-mêmes sont ça fonctionne peut-être là, au quotidien plus en anglais qu'on pense aussi dans la Ligue. Hein?
Mais c'est ce qu'on explique. Là, au sein même des vestiaires d'hockey, ça parle en anglais. Là. Je veux dire, ça va parler en anglais, ça glace. Il y a des entraîneurs qui sont d'origine anglophone, Mario, d'ailleurs dans le Canada, d'ailleurs aux États-Unis, qui vont parler, eux, en anglais aux joueurs. Là. C'est ce qu'on comprend. Là. D'ailleurs, notre collègue Jean-François Barry sera ici plus tard à l'émission. Il va peut-être te retoucher un mot là-dessus, mais parler avec notre collègue Sophie Durocher, justement, son fils, je le rappelle, est dans la LHJMQ ben ouais. Et il dit que c'est essentiellement ça. Là. Oui, ils peuvent parler en français, puis les joueurs, les Québécois entre eux, se parlent français, mais qu'il y a assez d'anglais pour que, ben, sur les entraînements, sur la glace et tout, mais ça se roule là, sur le banc même en anglais. Donc, c'est certain que ça a suscité tout un tollé aujourd'hui. Puis là, ben, on est encore en train de faire des vérifications. Il faudra voir qu'est-ce que l'Office aussi de la langue française va dire au terme d'une enquête autour de tout ça. Ça va peut-être servir d'avertissement aux autres équipes.
J'ai hâte de voir aussi ce que va dire le Québec Community Group Network là, qui s'inquiète pour la disparition de l'anglais, toutes les opérations pour faire complètement disparaître l'anglais du Québec.
Mais là, ça, c'est encore une initiative pour écraser.
Mais est-ce que c'est une initiative ça, qui pourrait, eux, les rassurer de voir que même au Saguenay, les joueurs ont des chandails en anglais sur le dos, que dire que peut-être que l'anglais n'est pas complètement en train de disparaître de l'Amérique du Nord. Il y a peut-être encore de l'espoir. Là.
C'est rassurant, Mario.
Pour eux, ouais.
Tout savoir en 24 minutes.
Autre nouvelle politique, puis c'est rare qu'on s'entend dans l'ensemble des partis politiques du Québec.
Ah, parce que c'est pour l'intérêt des partis, ils s'entendent.
Ah, ben c'est le cas.
Excuse-moi.
Est-ce que tu serais prêt à dire que c'est pour l'intérêt des partis, Mario, aujourd'hui? C'est ce que tu tentes d'insinuer?
Du peuple, je pense aussi un peu, là.
Oui, bravo.
Par extension. Ben, en Gaspésie, c'est très apprécié. Je veux dire, là, c'est très apprécié comme nouvelle, mais... C'est-à-dire que c'est une solution temporaire.
Donc, ouais, la solution en question, ben, c'est d'avoir stoppé, du moins pour l'instant, le redécoupage électoral au Québec. Parce que la carte électorale, avant les prochaines élections en 2026, on était censé procéder à un redécoupage qui allait essentiellement faire disparaître deux circonscriptions. Parce qu'avec les déplacements de population, avec les arrivées de nouveaux arrivants au Québec, avec ben, tout ce qu'on connaît comme changement démographique, ça fait en sorte que des circonscriptions qui sont très densément peuplées, d'autres qui sont énormes, par exemple, mais où il y a essentiellement presque personne, là, du moins moins, par exemple, que dans une circonscription qui ne fait même pas le centième, qui va se trouver à Montréal.
Et la tendance depuis 30 ans, plus que ça, 40 ans, pas compliqué, les régions éloignées perdent de la population, donc des comtés. Montréal, contrairement à ce qu'on peut penser, l'île de Montréal perd de la population un peu, en tout cas perd des comtés. Les comtés s'en vont où? Banlieue.
Voilà, les grandes couronnes.
Les couronnes, la couronne de Montréal, un peu aussi la rive sud de Québec, on a déjà gagné un. Mais c'est vraiment les endroits qui se peuplent, ce sont les banlieues. Et ben là, c'est encore ce qui se passait, la réforme que le ministre Roberge a bloquée ce matin. Enlever un comté dans l'est de Montréal, enlever un comté en Gaspésie.
À Montréal, c'était Anjou-Louis-Riel, la circonscription qui était menacée de disparition. En Gaspésie, c'était pas l'aventure.
Mais tu sais qu'Anjou-Louis-Riel... C'est une circonscription libérale, parce qu'il y a des Italiens, des non-francophones, il y a tout un secteur. Et là, qu'on ajoutait la circonscription de Paul-Saint-Pierre-Plamondon. Je pense pas que M. Saint-Pierre-Plamondon tenait tellement à ce redécoupage électoral. Déjà qu'il n'a pas gagné son comté par une grosse marge. Je remarque là, maintenant, il est rendu très populaire. Je pense qu'il serait dur à battre dans n'importe quelle circonscription, dans l'état actuel d'opinion publique. Mais ça, tu sais jamais, là, qu'est-ce que les sondages vont être là, à l'automne 2026, à la veille des élections. Alors, de se faire rajouter là des blocs de population plutôt libérales... Je pense qu'il tenait pas tant que ça, tu sais.
Ouais, donc aujourd'hui, ben c'est tous les partis ensemble, main dans la main, Mario, qui sont sortis pour annoncer cette nouvelle-là. On comprend
mais là,
peut-être
mais là,
un peu
ils
mieux.
Ont aussi dit qu'ils allaient trouver une nouvelle formule. Parce qu'il reste que, je sais, je suis le premier à dire, ça n'a pas de bon sens le nombre de kilomètres que tu as en Gaspésie. Tu sais, ça me dit que le député ne peut plus représenter ça. Fait que quand le député ne peut plus se rendre, ne peut plus aller dans sa circonscription d'un endroit à l'autre, c'est un problème, on le comprend. Mais est-ce que c'est l'inégalité des voteurs? C'est-à-dire que tu te retrouves en banlieue. Puis un comté, mettons, il y a 75 000 ou 80 000 voteurs. Puis dans un autre comté, bien, t'as 40 000 voteurs. Puis c'est comme si tu dis dans le comté en question où il y a 40 000 voteurs, chaque voteur vaut deux fois plus. Là.
Oui, c'est une injustice démocratique, on
c'est
comprend.
Ça, c'est une inéquité démocratique. On peut en tolérer, là, t'sais, jusqu'à un certain point, il y a une fourchette entre les gros comtés et les petits comtés, mais la loi électorale prévoyait une limite. C'est-à-dire, tu peux pas avoir des comtés là, si gros et si petits. L'écart entre les plus gros et les plus petits doit avoir une limite. Et c'est pour ça qu'on faisait des redécoupages, pour garder cette espèce d'égalité entre les comtés. Là, on gèle tout ça. C'est correct pour une fois. C'est correct, ça fait plaisir à tout le monde cette fois-ci. Mais il demeure un problème. Les partis ont dit qu'on allait revoir les règles de fonctionnement. Ça va être à suivre.
Actualité.
Ça revient. C'est cyclique, Mario, dans l'actualité, de revenir avec des nouvelles de l'ex-présidente de l'OCPM, l'organisme de consultation publique de Montréal, Dominique Olivier, qui, malgré des menaces de poursuite et autres contre les journalistes qui...
Pas des, des menaces ou une poursuite carrément poursuite direct, contre Québécois, pour un million et demi, quelque chose comme ça.
Ben oui, parce qu'elle...
Mais il semble que nos collègues du bureau d'enquête n'ont pas cessé leur travail.
Ils en ont fait fi, Marion. On va pouvoir dire ça comme ça parce qu'ils ont reçu des nouveaux documents qui avaient été demandés avec des demandes d'accès à l'information qui leur ont permis de mettre de la lumière, encore une fois, sur d'autres dépenses, encore une fois dans des restaurants, de Mme Olivier, alors qu'elle se trouvait à la tête là, de l'OCPM. Je rappelle, là, c'est la dernière en liste, là, cette révélation-là, d'une longue liste qu'a faite le bureau d'enquête, qui a révélé que Mme Olivier, là, entre 2016-2019, 17 793 $ qu'elle a facturé aux contribuables
le
resto.
Le point précis, est-ce que c'est autre chose? C'est quand même intéressant, parce que ça a trait avec, disons, le menu des restaurants.
Voilà, et c'est en février 2019, entre autres, que remonte un de ces incidents-là, elle doit rencontrer une commissaire potentielle. Et pour
donc,
ce faire...
personne qu'on pourrait recruter. Mais on ne sait pas qui.
Mais là, puis pour recruter quelqu'un...
On ne sait pas si elle a vraiment été recrutée ou pas, on ne sait rien. Là.
Voilà. Mais pour recruter quelqu'un, Mario, on peut pas faire son bureau.
Aller manger avec. Mais ça peut se faire.
Un lunch. Oui, ouais. Ça peut se faire, en autant qu'on soit responsable, surtout lorsqu'on refile la facture au contribuable. Et c'est pour ça qu'ils sont allés dans un restaurant, le Damas à Outremont, restaurant cuisine de syrienne raffinée. Et là, ben c'est un
plat... Si je ne m'abuse, je ne vais pas dire une faussée, je pense que c'était le restaurant de René Angelil, qui était d'origine syrienne. Il me semble que c'était son restaurant favori.
Ben, tu vois, ça se pourrait, Mario. Et là,
Une bonne table.
Mais une bonne table avec un bon plat. Un plat... 170 $ avant taxe, Mario. Et là?
Mais ça, on se comprend que dans ce restaurant, nos collègues ont vérifié, c'est. Et t'as ça souvent dans des grands restaurants. Tu vas avoir un menu, mettons, le poisson, 42$, le steak, 51$. Puis, tu vois, l'espèce de plat signature de la maison. Donc, on va dire ça, c'est plus un plat ordinaire, c'est l'expérience gastronomique de la maison.
Oui, c'est
qui
unique
va,
ici.
Qui va être, c'est ça. Qui va être hors de prix, mais qui va être dans les trois chiffres ou quelque chose comme ça. Mais vraiment. Puis souvent, ça sera même pas dans la liste du menu, ça va être à part dans le bas de la page avec des petites étoiles pour te dire, là, tu sais, expérience gastronomique, puis là, t'as un autre prix. On devine que c'est ça que Mme Olivier choisissait.
Ben oui, parce que là, c'était caviardé, Mario. On peut pas savoir exactement c'est
choisi?
Quoi qu'elle a choisi.
Mais on voit le prix.
Ben, on voit le prix.
Puis là, ils sont allés voir le menu pour dire, ben, il n'y a rien à ce prix-là, sauf...
1 plus 1 égale 2. Sur le site web du resto, on peut voir que sur le menu, une assiette de grillade de viande pour deux personnes, incluant du carré d'agneau de l'Alberta et du filet mignon, qui est vendu exactement 170 $ avant taxe, Mario. Donc, est-ce que c'était ça à l'époque aussi? On peut deviner ou présumer.
Mais le point, c'est que c'est... Moi, j'appelle ça le plat signature, là, le plat hors catégorie. Puis, écoute... Si tu veux une soirée gastronomique, tu veux célébrer quelque chose, tu décides de te le payer, c'est correct. Je trouve ça étonnant, là, dans une occasion où tu dis, garde un dîner, je m'en vais rencontrer quelqu'un, plus business meeting, sur le bras, là, tu sais, on le fait payer par l'office, d'aller choisir l'item, le plat signature, pour vrai. Pour vrai.
Mais c'est surtout que c'est pas la seule instance, Mario. C'est là le problème, en plus, parce qu'en décembre de la même année, nouvelle rencontre avec une autre commissaire potentielle. Cette fois-ci, le restaurant Icanos, chic restaurant du Vieux-Montréal, réputé pour ses fruits de mer et ses poissons. Et là, on va sur place, un plat d'une valeur de 208 $ avant taxe, qui est encore une fois caviardé. Hein? Mais on dit par contre, Mario, chanceux que nous sommes les contribuables, qu'il y a une promo gérant de 150 $ qui a permis de réduire un tout petit peu la facture.
À 150.
À 177,
quand même 150 pour une assiette, c'est bien payé, là.
Oui, ça c'est un bon repas. Je le prendrais, Mario.
Oui.
Je le dégusterais. Eh bien, c'est à peu près la même affaire qui est rapportée là, dans toutes sortes là, d'instances comme celle-là. Puis après ça, le problème, c'est que là, entre autres, on parle là, en mars de l'année précédente, un autre plat, 158 $ au même restaurant. Et là, le but de la rencontre, cette fois-là, c'était pas pour un commissaire, c'était pour discuter de la consultation sur le racisme et autres dossiers. Le problème... Mais c'est que la pétition citoyenne qui a forcé Montréal à avoir une consultation publique sur la discrimination systémique et le racisme, c'est arrivé un mois plus tard. Ouais. Il parlait de racisme un mois avant. Il est avant-gardiste.
Avant que la consultation soit demandée.
Ben oui. On va le dire comme ça, Mario. Ils ont pris les devants.
Ils ont vu venir.
Ils ont pris l'initiative.
Mais peut-être que dans un plat à ce prix-là, ils te fournissent du thé. Puis là, dans le thé, tu peux lire l'avenir.
Oh! Mais ça, c'est pas pire, Mario, dans les feuilles de... Hein?
Dans les feuilles de thé. Ça, je connaissais un bon restaurant, moi, mais ça, c'est cher.
C'est cher?
C'est ça. Ben moi, j'ai quand même mon restaurant de temps en temps, moins qu'avant. Quand même, je considère dans des restaurants bien corrects, puis je prends pas toujours ce qu'il y a de moins cher, puis je m'approche jamais de ça, là.
Ouais, tu détournes le budget dans le vin, par contre.
Ben, même au restaurant, non, je fais plus attention. Et si je prends un vin cher, je vais le prendre chez nous. Parce qu'à un moment donné, parce que, non, mais tu sais, le restaurant qui te le vend 3 fois le prix de la SAQ, là, mettons, parce qu'à un moment donné, ça n'a pas d'allure, là.
On y reviendra avec une chronique gastronomie, Mario. Oui, ça va nous prendre ça.
Je paye moi-même.
Oui. C'est ça.
C'est ça la grande différence. J'allais dire, c'est ça la beauté. Non, c'est ça mon problème.
Tout savoir en 24 minutes.
Dans les affaires judiciaires, ça brasse pas mal aujourd'hui, Mario, alors qu'on a eu non seulement la confirmation qu'il va y avoir procès dans la tragédie, le double meurtre, maintenant on peut le dire comme ça, de la garderie de Laval. Pierre-Nice Saint-Amand, 52 ans, le chauffeur qui a embouti volontairement une garderie, tuant sur le coup 2 enfants, une fille de 5 ans, un garçon de 4 ans, avec son véhicule le 8 février 2023, qui est non seulement apte à subir son procès, mais qui va le subir, Mario, pour des accusations, là, double accusation de meurtre prémédité, entre autres.
Meurtre premier degré. J'avoue être surpris parce que à un moment donné, on ne savait plus à quoi s'en tenir tellement ça a été long. Là.
Ouais.
Tu sais, ça a été reporté, sans jamais qu'on ait aucun détail là, préliminaire sur ce qui... On savait juste que l'Institut Philippe Pinel avait besoin de plus de temps pour faire son évaluation. Peut-être à tort, probablement à tort. On finissait par conclure que son cas est extrêmement complexe. Il ne doit pas être apte à subir son procès.
Mais il avait comparu de l'hôpital, maintenant, puis il avait frappé dans le visage un policier à côté de lui là, pendant la comparution. Là.
Mais là, probablement qu'à Pinel, l'individu donnait des signaux contradictoires. Ou... J'avoue que ça me mystifie un peu. Là, parce que quand quelqu'un, quand t'es soumis au risque de faire de la prison à vie... Tu dois être aussi, veux pas tenter de jouer la comédie puis de faire le fou, puis tu sais...
Ouais, c'est difficile, là. C'est le rôle après ça.
Mais c'est ça, jouer au malade, là.
Mais dans ce cas-ci, qu'il ait joué ou pas, Mario, apte à subir son procès, deux fois meurtre premier degré, puis après ça, il y a des tentatives de meurtre, des voies de fait graves aussi.
Change, mais je veux dire, ça change tout, là. Ça devient un procès qu'on va suivre, va être intéressant de savoir. Bon, on sait... Tout ce qui est arrivé, on le sait. Là. Je veux dire, ce qu'il a fait, tu sais, c'est filmé, on le sait. C'est juste que... Probablement que dans le procès, on va savoir l'avant, la préméditation, les heures d'avant, les jours d'avant. On va sans doute avoir plus d'explications sur lui. Là. Parce que à date, c'est ça qu'on sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il l'a fait. Puis après ça, il était comme un fou furieux là, qu'on a dû maîtriser, là, que des hommes sur place, des pères de famille ont dû maîtriser sur place. Ouais. Mais on sait rien sur son avant. Là, on dit meurtre prémédité.
Ça veut dire qu'on a des preuves.
On a des preuves qu'il a prémédité, qu'il a préparé le coup. C'est ça qu'on risque d'apprendre au procès.
Il reviendra dans tous les cas en cours en avril pour la suite des procédures.
Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
J'en parlais, c'est beaucoup, beaucoup d'actions, c'est à la scène judiciaire aujourd'hui, alors qu'on a en ce moment un procès qui revient, Mario, un dossier qu'on a déjà couvert ici à Cube en octobre 2022, pour lequel on avait peu de détails à l'époque, ça semblait être un cas hors du commun, puis maintenant, ça se concrétise alors que le jeune de 20 ans, Nicolas Côté, a reconnu son crime, celui d'avoir tué et démembré un sexagénaire, mais c'est les motifs de cette agression, de ce meurtre qui sont maintenant dévoilés.
Pour situer les gens, c'est une arrestation qui avait eu lieu sur le bord de la rivière Richelieu ou une descente de bateau où on allait jeter le corps à l'eau là, dans des sacs. Le jeune homme et une complice. Là.
Voilà, une complice qui était sa copine de l'époque là, qui ont été arrêtés alors qu'ils étaient pris sous filature là, à ce moment-là, 2 jours après le meurtre. Je reviens au meurtre lui-même, c'est qu'à ce moment-là, Nicolas Côté, lui, échange avec un ami et aurait appris que cet ami en question aurait déjà été supposément agressé sexuellement, là, subi une agression sexuelle lorsqu'il était mineur des mains de l'homme de 64 ans, Luc Lafontaine. Et là, il décide de le venger en faisant ce qu'on pourrait appeler en anglais là, du catfish, là, aller faire l'hameçonnage.
A obtenu son numéro de téléphone cellulaire et s'est fait passer pour un jeune intéressé à avoir une aventure avec lui.
Oui, puis même se fait passer, était lui-même un jeune à ce moment-là, on se comprend. Et là, des textos à connotation sexuelle, envoie pas moins de 117 messages à sa future victime, des messages la journée même, des photos d'organes génitaux. Et là, il se rend au domicile de M. Lafontaine à Saint-Hubert sur la rive sud. Puis le but est clair, là, c'est d'avoir une relation sexuelle donc entre les deux. Et là, il se rend sur place. Lui voulait, dit-il, le confronter, le mettre devant les faits accomplis, lui dire « Hey, t'as agressé mon ami », etc. Et là, Le problème, c'est que sur place, semble-t-il, que ça dégénère. La fontaine fait des avances aux jeunes.
Et quand la fontaine le touche physiquement, là, sur ses organes, tout ça, il disjoncte. Essentiellement, c'est ce qui est décrit, c'est qu'il pète les plombs.
Ouais, pète un câble complètement, attrape le premier objet qui vient sous la main, trouve un marteau, se met à lui asséner des coups sur la tête, 5 coups de marteau différents. Et là, ben l'homme de la soixantaine devient agressif, réagit, insulte, menace. Et là, ben le jeune en question se serait rendu dans la cuisine, attrape un couteau et se met à poignarder Luc Lafontaine, 25 reprises différentes au cou, à la tête. 3 plaies qui sont mortelles, dont une au cœur à ce moment-là. Puis par la suite, Nicolas Côté se met à démembrer sa victime en plusieurs morceaux, essayer de nettoyer la scène de crime des heures qui ont suivi, envoyer comme des faux textos à victime, comme si tu sais, c'était pas encore rencontré à ce moment-là. Le problème, c'est que ça n'a pas été compliqué pour les enquêteurs de se rendre compte que le dernier appel provenait du téléphone de Nicolas Côté. L'ont rencontré, il a dit n'avoir rien à faire avec le crime, l'ont quand même mis sur filature, et là, 2 jours plus tard, en soirée, avec sa copine, ben ils sont allés chercher un canot et s'apprêtaient, on se comprend, avec des morceaux du corps, à aller le jeter à la flotte, ni plus ni moins, et ont été interceptés tout de suite avant par les policiers. Sa copine, Zoé Boutin, 20 ans, plaidait déjà coupable en décembre dernier une accusation d'outrage à un cadavre. Donc, on verra dans quel cas, là, quelle sera la sentence pour elle. Mais 2 avis de culpabilité, vraiment un drôle de dossier judiciaire, Mario.
Économie.
Certaines personnes ont peut-être pu le voir en première page du Journal de Montréal, Mario, aujourd'hui, publicité qui ressort quelqu'un, je veux dire poliment, des boules à mythes.
Mais en première page du journal, mais sincèrement, je sais pas la job que Rona a fait de réserver de la publicité. Sur les sites d'Internet au Québec, là, sur les sites Internet un peu partout, cette publicité-là était omniprésente aujourd'hui.
Oui, on voulait vraiment faire une campagne là, à grande échelle parce que...
Ça s'appelle un barrage publicitaire. Là. Quand tu t'assures que quasiment dans une journée, n'importe qui va sur Internet va l'avoir, t'achètes l'espace. Parce que la fois, c'est une affaire d'une journée, là, ce coup d'éclat avec Ronde Fournier.
Oui, parce que ça va concerner après ça ben, le match du Canadien de Montréal là, qui va se tenir en soirée. Et après le match des Canadiens, ben, Ronde Fournier sort de la retraite. Pis c'est un peu ça le slogan. Là, Ron sort de la retraite pour vous sortir de la retraite, pour inciter les jeunes retraités à retourner sur le marché du travail, entre autres dans les Rona, donc pour la publicité.
Et je dirais que c'est la deuxième. La campagne est incroyable. La deuxième chose, c'est que tu dis, écoute, un commerce, une chaîne de commerce qui fait une grosse campagne comme ça, de toutes les époques, ils veulent vendre leur matériel. Ils veulent vendre leurs 2x4, ils veulent vendre des ampoules, ils veulent vendre des outils, ils veulent vendre leurs affaires.
Mais là...
Ce n'est pas l'objet de la campagne du tout. Du tout, du tout, du tout.
Ils veulent recruter, au contraire.
Des retraités.
Voilà, c'est la marchandise. C'est vous à la maison, jeunes retraités, donc, qui veulent être récupérés par Rona. Et donc, ben, à cet effet-là, ben, Ron Fournier qui sort de sa retraite, qui va faire un Facebook Live aussi ce soir, un moyen peut-être d'aller chercher le plusieurs générations. Facebook Live avec l'usage des médias traditionnels, donc, qui sont combinés dans ce cas-ci.
Facebook Live, je comprends qu'il va être à cheval où tu vas pouvoir parler de hockey ou parler de retraite ou de sortie de la retraite ou de bonheur de retourner travailler. Tous les sujets vont être ouverts avec Ron, qu'on aime tellement.
Ben voilà.
Et sa façon quand même unique de faire des lignes ouvertes.
Exactement. Donc, ben, ça va être une ligne ouverte toute spéciale aussi. Là, peut-être que ça va lui redonner le goût, ou du moins que ça va lui ramener un peu là, de bonheur de son emploi qu'il a quitté maintenant pour la retraite. Donc, toute une publicité, Mario, qui n'a pas fini de faire jaser. C'est ce soir que ça se poursuit.
Le monde.
J'en profite, Mario, aussi, parce que ben il y a une théorie du complot. Mon Dieu, que je suis heureux.
Ça fait 2-3 semaines qu'elle roule en fou, celle-là.
Oui, elle roule en fou, celle-là. Mais là, on est rendu au point où même les milieux politiques sont obligés d'intervenir et de dire que ça n'a pas de bon sens. Puis ça se multiplie, Mario. Là, dans ce cas-ci, ça concerne Brigitte Macron, hein, la femme, évidemment, du président français, Emmanuel Macron. Mais les femmes présidentielles, ils sont presque toutes passées. Là. On a déjà vu les mêmes rumeurs à partir de Michelle Obama, hein, la femme, bien évidemment, de Barack Obama. Des rumeurs qui disent qu'ils sont des hommes trans, en fait. Là. En fait, des femmes trans, donc des hommes qui auraient décidé de faire un changement de sexe. C'est ce qu'on comprend. Ce sont des rumeurs qui sont relayées, Mario, là, par des milieux d'extrême droite, ultra-racistes, ultra-homophobes, qui vont ramener là, constamment cette espèce de vieille rumeur-là. Puis le problème, mais c'est qu'en ce moment, c'est en train d'être
repris. Mais c'est parce qu'ils diffusent des fabrications, là, des images, des fausses images.
Ils sont à la chasse aux sorcières, pour vrai, Mario. Ils vont montrer des diagrammes, puis des photos. Là, puis là, tu zoomes, puis regardes son visage-là. Puis ça, entre autres, ben, des des blogueurs, je vais le dire poliment, comme par exemple Candace Owens aux États-Unis ou encore des gens comme Tucker Carlson qui ont relayé là, ces espèces de mensonges-là au fil des ans. Mais je vais te le dire, celle sur Brigitte Macron en ce moment, excessivement tenace, là, des montages sexistes dégueulasses que j'ai vus là, dans les derniers jours, même sur des groupes
mais
complotistes
elle-même,
québécois.
Elle doit-tu capoter?
C'est spécial, là, un point tel, elle doit capoter tellement qu'ils ont dû saisir de la justice en France il y a quelques temps autour de ça. Puis qu'Emmanuel Macron, là, pour la journée internationale des droits des femmes, en a parlé littéralement dans son discours. Non, vraiment, il y a des gens qui sont un peu dégueulasses, Mario, puis qui feraient n'importe quoi ou diraient n'importe quelle niaiserie pour invisibiliser certaines femmes de pouvoir dans le monde.
Et pour des clics.
Ah, bien ça, c'est le nom de la guerre.
Et pour des clics qui leur rapportent. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.